Deuxième épître à Timothée, au chapitre 2 toujours, hein, et à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Alors 2 Timothée, chapitre 2, verset 14 à 26. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Déjà, rien que de lire le texte, on est édifié et fortifié, parce qu'il y a tellement de choses. Et là, ça fait déjà des mois que nous sommes dans ce texte. Hein. Et il y a chaque aspérité, chaque détail, chaque chose est d'une importance tellement vitale. Mais ce qui est général dans ces quelques versets, eh bien, c'est la langue, la parole, hein, ce qui parle. Et il faut faire attention à nos paroles et nos discours, nos enseignements, nos réprimandes, nos discussions les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, eh bien, nous sommes dans un monde de paroles, hein, de médias. Et des médias, il y a l'image et il y a la parole. Donc hein, vous aviez le cinéma muet, mais maintenant c'est fini, hein. Il y a longtemps qu'il n'est plus muet. Donc, quand vous écoutez, vous dites, je préférais ni écouter ni regarder, parce qu'il y a des drôles de choses que l'on voit dans ce cinéma et dans tout. Mais ce qui est très important, c'est de voir combien la parole. Vous avez des hommes politiques, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des professeurs, vous avez des multitudes de gens qui parlent beaucoup, qui parlent à tort et à travers. Et même l'écrit, c'est une parole écrite. Hein. Vous avez des multitudes de livres, vous avez des exposés, vous avez des thèses, vous avez des multitudes de choses qui sont dites par écrit. Et tout ça, ben, ce sont des paroles. Il y a des multitudes de paroles. Il y a des gens qui parlent pour rien dire. Vous avez entendu parler de la langue de bois ? Non ? Ben, la langue de bois, ben, c'est parler pour rien dire. C'est quelqu'un à parler, bien parler. Et vous dites, oui, vraiment, hein, et puis vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Rien, rien. Il y a des personnes, mais c'est très fort dans la politique, des personnes qui parlent pour ne rien dire. Et je me rappelle d'un homme qui, il disait qu'il s'était converti, qu'il était chrétien, il avait fait de la politique. Bon, c'était juste un syndicaliste, Mais quand il parlait, même quand il priait, à la fin, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière ? On ne pouvait rien retenir, parce que c'était rien. Voilà. Et donc, quand nous sommes chrétiens, la parole de Dieu doit être dans nos cœurs et dans notre bouche. C'est par la parole. Nous sommes capables d'amener une âme au salut, d'annoncer l'évangile, de dire que quelqu'un est perdu et qu'il a besoin de naître de nouveau, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Christ. C'est le témoignage, on rend témoignage. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez, parlez, amenez des âmes au salut. Tout ça, c'est par la parole. Et donc, c'est très très important, nous, chrétiens, de surveiller nos paroles. De la même ouverture, nos bouches, elles ne peuvent pas sortir les choses mauvaises et les bonnes choses. Nous devons faire un tri. Et ça, je peux vous dire, bon, ce sont mes... À un moment donné de ma vie, j'ai pris des décisions et de faire des choix. Donc, c'est vrai qu'on peut dire des multitudes de choses, mais on doit faire le choix de notre bouche, de ce qui va sortir de notre bouche. Il y a des paroles inutiles et il y a des paroles puissantes, des paroles divines qui doivent être dans notre bouche. Je me rappelle, j'étais un raconteur de blagues. Bon, tout à l'heure je l'ai fait, j'en ai raconté une. Hein. Donc la personne, ça l'a fait rire. Mais je racontais des blagues. Je pouvais, vraiment, c'était... Et puis un jour, en méditant et en priant, j'étais fortement repris dans ma conscience. Mes blagues n'étaient pas ni sales, ni équivoques, ni rien du tout. Hein. C'était juste de la superficialité. Voilà, je blaguais, je racontais des trucs, des machins. Mais j'étais très humilié dans la présence de Dieu parce que je me suis dit, mais tu cherches ta gloire. C'est toi que tu mets en avant. Et tu ne mets pas en avant le Seigneur Jésus-Christ. Et là, je peux vous dire, je me suis humilié devant Dieu et je demandais pardon. Et j'ai changé du tout au tout. Et les gens qui avaient l'habitude de... qui disaient, Jean-Alain, fais-nous rire. Voilà, fais-nous rire. Et Jean-Alain ne faisait plus rire. Et j'ai perdu énormément d'amis comme ça, parce que je ne faisais plus rire. Je voulais toujours dire des choses sérieuses, des choses profondes, des choses qui avaient de la valeur. Parce que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Nous sommes chrétiens et nous avons dans notre bouche le message de Dieu, le message du salut, le message de la conversion, le message de la réconciliation avec Dieu. On ne peut pas faire sortir de la même ouverture les choses légères, les choses insignifiantes et les choses profondes. Alors, on peut dire, Jean-Alain, tu vas un peu trop loin dans ce que tu dis. C'est un avis, c'est une opinion. Hein? Mais pour moi, je suis convaincu que quand on veut vraiment apporter quelque chose de solide et de pur et de vrai et de saint, eh bien, il faut que notre bouche soit remplie de choses saintes, de choses vraies, de choses utiles. On n'est pas de vains discoureurs. On n'est pas de ces personnes qui racontent à droite et à gauche, mais on a devant nous un monde perdu, des âmes qui vont en enfer. Les chrétiens du temps passé, les pasteurs en général, ne riaient jamais. C'était dans les églises protestantes, le pasteur ne riait jamais. Et même, je me rappelle, c'était un grand serviteur de Dieu pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est un écrivain du 19e siècle. Il disait, le serviteur de Dieu doit être un homme grave. Aujourd'hui, ce serait tout à fait interprété d'une autre manière. Mais c'était la gravité dans les propos. C'est-à-dire quelqu'un qui disait toujours des choses solennelles, des choses puissantes, des choses vraies. Et il poursuit en disant que nous sommes en face d'un monde perdu. Il y a des gens qui vont en enfer. Ce n'est pas l'heure d'avoir des propos agréables et tout cela. Il y a un poids, il y a quelque chose qui pèse sur le serviteur de Dieu parce qu'il doit être conscient de sa mission divine parce que lui pensait que le ministère pastoral était une mission divine et qu'il fallait que, face à un monde perdu qui va en enfer, on ne peut pas rire. Il y a des larmes à verser, il y a des prières à faire, il y a des supplications, il y a une angoisse dans l'âme parce que nos contemporains vont en enfer. Ça, c'est quelque chose, vous savez. C'est pour cela qu'on doit faire attention à nos paroles. Alors, bien sûr, on ne doit pas être des piétistes. On ne doit pas être de ces personnes qui sont guindées dans leur muraille de sainteté. Mais néanmoins, eh bien, il faut faire attention à notre légèreté. Parce que notre légèreté nous démontre que finalement, nous ne sommes pas aussi profonds que ça. Il y a un monde perdu et cela nous indiffère totalement parce que on a bien des choses à dire et bien des choses à accomplir et on n'a pas le souci des âmes, pas le souci des perdus. C'est quand si nous avions vraiment une vraie vision de la perdition de l'humanité en face de nous, nos contemporains qui vont en enfer, eh bien les choses ne seraient pas si légère que ça pour nous. Je me rappelle, quand j'étais à l'Institut biblique, mon professeur d'homilétique nous avait demandé de faire une prédication. Voilà, toutes les semaines, on avait une prédication à faire. Et donc, un des étudiants avait dit, ma prédication est sur l'enfer. Et je vais vous parler de l'enfer. Et là, le professeur lui a dit, arrête. Tu ne vas pas prêcher aujourd'hui. Parce que si tu voulais prêcher sur l'enfer, tu verserais des larmes. Tu n'aurais pas un grand sourire comme ça. Les gens vont en enfer. Ils sont perdus. Et c'est l'éternité en enfer. On ne rit pas. Il y a des larmes à verser. Et il y a des damnés qui verseront des larmes pour l'éternité parce qu'ils sont damnés. Et ça, c'est, vous savez, nos plaisanteries, nos rigolades, notre vie légère, notre vie dans tous les sens. Mais c'est un mépris, finalement, à ces âmes perdues. Et c'est pour cela que je poursuis quand même longuement ce qui est dit sur la parole. Parlez, parlez, parlez. Faites attention à ce que vous dites, comment vous parlez. Parce que avec vos paroles, vous pouvez amener une âme au salut. Mais vous pouvez lui fermer le ciel pour l'éternité. C'est si vous dites, vous parlez, vous faites réciter une leçon, hein, vous avez de la bonne volonté, vous allez vous parler à quelqu'un et vous récitez une leçon, la personne dit, mais ça, tu es un sectaire, tu es dans un mouvement, tu essayes de me convertir, et moi, j'en veux pas de ça. Alors qu'il faudrait avoir l'Esprit de Dieu, il faudrait vraiment avoir un message puissant et vivant. J'ai lu la semaine dernière une sorte de biographie. Hein. C'est Ruben Torre qui a écrit quelque chose sur Moody. Donc, il disait, un jour, Moody et moi, nous étions dans la rue. Et il y a quelqu'un qui dit, « Oh, mais c'est Monsieur Moody qui est ici !» Et les gens disent, « Ah, Monsieur Moody !» Et la foule s'est assemblée autour de ces deux personnes. Ils étaient là, ils se sont assemblés. Et Monsieur Moody, Monsieur Moody. Et Monsieur Moody a dit à Ruben Torre, il lui a dit, va louer le théâtre qui est là-bas. Il a loué le théâtre et ils sont allés. Et il a dit, eh bien, retrouvons-nous au théâtre. Ils sont tous allés au théâtre et il a annoncé l'évangile et des âmes ont été sauvées. Il a profité de ce que c'était un homme très connu, très populaire et que la foule s'assemblait. Il s'est dit, mais il y a un message à annoncer à ces âmes perdues. Ce n'est pas seulement que je suis là l'homme populaire. Je suis seulement un messager, quelqu'un qui apporte un message, le message du salut, rien d'autre. Le nom était connu et il avait ce privilège d'être un homme très connu, très réputé, mais justement parce qu'il avait une parole puissante. Quand il prêchait l'évangile, les âmes se convertissaient. Et il était devenu populaire. Il était connu partout. Hein. C'était pas étrange qu'une foule s'assemble dès qu'on reconnaissait qu'il était là. Parce qu'il avait un message. C'est une parole puissante. Et c'est, nous aimerions bien avoir au moins un à notre époque. Une personne comme cela qui prêche, oui, mais ce sont des personnes qui ont donné toute leur vie au Seigneur. Hein. Je me rappelle, c'était, on revient à notre Américain, qui était le chanteur des campagnes d'évangélisation de Moody. Il s'appelait Ira Sankey. Et un jour, lui aussi a été reconnu. Il était, vous savez, on connaît tous ces petits bateaux, ce gros bateau qui remontait le Mississippi. Et alors, il était, faisait Memphis, je ne me rappelle plus trop quel endroit, ou le Caire, Memphis, un truc comme ça. Et puis, il remontait. Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Oh, mais monsieur Sankey, c'est vous !» Et il a dit « Oui, eh ben, c'est moi. » Et il a dit « Est-ce que vous ne voudriez pas nous chanter quelque chose ?» Alors, il a dit « Attention, je ne chante que des cantiques. » Alors, ben, tant pis, chantez-nous un cantique. Et il a chanté, il avait une voix extraordinaire, mais il ne chantait que des cantiques. Et alors, pendant qu'il était en train de chanter, il y a quelqu'un qui s'est approché de lui, il lui a dit « Mais monsieur, quand pendant la guerre, c'était la guerre civile hein, aux États-Unis, est-ce que vous n'étiez pas ce jour-là à tel endroit, telle nuit, tel jour ?» Alors il a dit « Oui, en effet, j'étais en sentinelle à cet endroit-là. » Il a dit « Eh bien moi, j'étais dans l'armée confédérée et j'ai mis la sentinelle au bout de mon fusil. » J'ai dit, toi, Yankee, tu es mort. Et puis, la sentinelle a commencé à chanter. Et c'était exactement le cantique que vous chantez maintenant. Et j'ai dit, je vais attendre que tu aies fini avant de te tuer. Et quand tu as fini de chanter, eh bien, je pleurais. Et j'ai dit, bon, je te fais grâce. Il a dit, je ne chante que des cantiques. Et ça lui a sauvé la vie. Parce que, on lui a dit, il aurait pu être tué d'une balle. Mais je peux vous dire, nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est la grâce que Dieu a répandue sur nous, le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Ce n'est pas un petit détail de la vie, ce n'est pas un petit détail de l'histoire que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. C'est le pivot même de l'histoire de l'humanité. C'est l'espérance de l'humanité. À un moment donné de l'histoire humaine, alors que l'humanité se précipitait en enfer, quelqu'un a donné sa vie pour que les coupables puissent obtenir miséricorde. Il a donné sa vie. Et ça a changé le cours de l'histoire. C'est le Sauveur qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie pour nous. Et alors nos paroles, quand nous parlons d'un Sauveur qui nous a lavés de nos péchés, qui nous a réconciliés avec lui-même, qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui a fait de nous des personnes qui vivent avec une espérance céleste, qui peuvent prier et dire « Mon Père ». Et Dieu s'adresse à nous et dit « Mon enfant, répands tes prières devant moi, parle-moi, dis-moi ce qui est sur ton cœur ». Ce sont des paroles, et nous avons besoin que ces paroles soient vraies, qu'elles soient puissantes, que ce ne soit pas de l'hypocrisie, que ce ne soit pas pour la forme. On prie vraiment, on prie, on s'humilie devant Dieu, on descend, on dit « Seigneur, remplis ma vie, prends toute la place en moi, sois le chef de ma vie, domine depuis le début de cette journée jusqu'à la fin de cette journée, et remplis le milieu de la journée, remplis tous les détails de ma vie. Je la mets entre tes mains, je te donne ma vie. » On prie, ce sont des paroles, parce qu'il y a quelque chose de vrai, de puissant, qui un jour s'est passé dans notre vie. On ne peut pas être du léger et superficiel. On ne peut pas prendre l'habitude de la superficialité. On peut raconter des multitudes de choses, même spirituelles, et en parler comme des lieux communs, comme des choses qui, voilà, ben, c'est un fait, c'est une évidence. mais nous aurions parlé de la pluie et du beau temps, nous aurions parlé des prochaines élections ou de, je sais pas, de n'importe quoi d'autre, avec la même intensité, le même désœuvrement. Voilà. On a parlé de Dieu. On a parlé de Jésus-Christ. Ah oui, arrêtez, je vais vous dire, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Vous êtes perdus. Si on le dit de cette manière-là, mais quel effet cela a sur les âmes? J'étais perdu dans mes péchés, et le Fils de Dieu a donné sa vie pour moi. J'avais mérité l'enfer. J'étais digne de répréhension. J'étais digne de la colère de Dieu. Dieu pouvait me repousser, me jeter en enfer et dire, hors de ma vue! Tu n'as aucune place dans le ciel. Sois damné. Et il aurait été absolument juste de le faire. Et un jour dans ma vie, j'ai eu conscience de cela. J'ai dit, Dieu, si tu m'envoies en enfer maintenant, j'en suis digne. Tu es absolument juste de le faire. Mais j'implore ta grâce. Je te demande, sauve-moi. Lave-moi de mes péchés. Purifie-moi totalement. Je m'incline devant toi. Je cède. Je renonce à ma vie. Je remets tout entre tes mains, prends toute la place. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas mes plans, non pas ma recherche de moi-même, non pas ma réussite, ni professionnelle, ni sociale, ni quoi que ce soit. Je renonce à tout pour Christ. Vous savez, quand le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous, il a renoncé à tout. Et nous, nos paroles, quand nous prononçons certaines paroles, elles doivent être vraies. Elles doivent être puissantes, elles doivent être profondes, elles doivent être saintes, elles doivent être faites avec un cœur qui s'humilie vraiment. Et Dieu écoute des prières comme cela. Mais si nos prières sont superficielles, Seigneur bénis-nous et fais en sorte que nous n'ayons ni accident ni incident et que tout aille bien et que tout réussisse et que nous n'ayons pas de problème et que... Vous pouvez réciter des prières comme ça, les enregistrer, hein. Et même pas prononcer, puisque vous êtes un moulin à prière. J'ai vu un jour, c'était une femme qui était sur l'estrade, hein, c'est une femme pasteur. Et c'était, je me suis dit, c'est un moulin à prière, un moulin à louange. Et on avait poussé, comme si on avait poussé le bouton, et ça parlait. Je dis, mais elle n'a même pas le temps de réfléchir à ce qu'elle dit. C'est automatique. Mais nous sommes... lavés par le sang de Christ, nous étions perdus dans nos péchés. Il y avait quelque chose, une dette entre Dieu et nous. Nous étions ennemis de Dieu. Et Dieu, dans son immense amour, nous a sauvés. Il nous a pris par la main. Il nous a conduits dans le bon chemin. Il nous a dit, n'aie pas peur. J'ai donné ma vie pour toi aussi. Si tu m'acceptes, tu es sauvé. Tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et tu deviens mon enfant. Et quand nous l'avons accepté, et nous sommes entrés dans la joie des enfants de Dieu. Nous avons été réconciliés à un si grand prix. Nous avons jamais, aucun prix n'a été payé qui était si grand et si magnifique que le sang du Seigneur Jésus-Christ, que le Sauveur lui-même, que le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est pour cela que nos paroles doivent être pures, elles doivent être vraies. Notre vie doit être sainte, notre vie doit être consacrée à Dieu, parce que il nous a tout donné. Il a fait pour nous au-delà de toute imagination. Il y a des prises de conscience. Il y a des moments où on s'arrête et on se dit, mais je tourne en rond, je suis un faux follet. Je vais dans toutes les directions. Il n'y a aucun sens à ma vie. Il n'y a rien qui est concrétisé dans une direction. Je suis dans toutes les directions à la fois. Je fais n'importe quoi. Bien sûr, je ne me livre pas au péché, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais ce que je fais de bien n'est pas si bien que ça. Je le fais par habitude. Je le fais parce que ça me plaît. Je le fais parce que j'en tire une certaine gloire. Je le fais parce que... Mais c'est corrompre des choses saintes, des choses pures. Si on fait quelque chose... C'est parce que Dieu a donné sa vie pour nous. C'est parce que nous prenons conscience de tout ce qu'il a fait. Et nous disons, Seigneur, toi qui as donné ta vie pour moi, je te donne ma vie. Je la place entre tes mains. Non pas mes plans, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, tes plans, ta volonté, ta sainteté en moi, que tu sois vu en moi, que je disparaisse, mais que toi tu sois vu. C'est cela l'essentiel. Et c'est comme cela, vous savez, les vases d'un usage vil et les vases d'honneur. Celui qui se conservera pur sera un vase d'honneur. Parce que je vous ai raconté quelques épisodes de la vie d'homme de Dieu qui était particulièrement consacré et que Dieu a particulièrement utilisé. C'est pourquoi ils étaient des vases d'honneur. Il n'y a aucun mélange dans ces vases. Ils sont purs, totalement purs. Ils ne recherchent pas leur gloire. Il n'y a pas le mélange de la gloire de Dieu et de la gloire de l'homme. Dans le vase pur, il n'y a que la gloire de Dieu qui est recherchée et qui est mise à l'intérieur. Si vous recherchez si peu que ce soit votre propre intérêt, votre propre gloire, vous n'êtes pas un vase d'honneur. Le vase d'honneur est rempli de choses précieuses, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la sainteté de Dieu, rempli de la présence du Fils de Dieu. Et c'est comme cela que ceux qui, si je peux m'exprimer ainsi, qui boivent à ce vase d'honneur, eh bien sont édifiés, fortifiés, et qui peuvent vraiment dire, oui, Dieu a parlé à mon cœur. C'est Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Tandis que d'autres sont d'un usage vil, alors il y a n'importe quoi qui est là-dedans. Il y a le bon, le mauvais, voilà, c'est un sordide mélange. Si, imaginez, vous faites une boisson et vous mélangez du sel, vous mélangez du bicarbonate, vous mélangez de l'huile, vous mettez aussi de l'arsenic et vous mettez une chose et puis une autre. Et vous, voilà, c'est à boire, c'est une boisson, c'est un usage vil. Il y a n'importe quoi là-dedans. Mais dans un vase d'honneur, eh bien, on ne met pas n'importe quoi. C'est dans notre vie, eh bien, il doit y avoir des choses propres, des choses frais. Nos paroles doivent être pures, elles doivent être saintes, elles doivent être justes, elles doivent honorer Dieu, elles doivent amener les autres plus loin. C'est un rôle magnifique, merveilleux. Et Dieu, est exigeant. Dieu ne se contente pas des demi-mesures. Moi, je suis presque consacré. Presque consacré ou pas consacré du tout, c'est la même chose pour Dieu. C'est ou à moitié ou consacré ou... Non, c'est totalement. C'est ou on est un vase d'un usage vil ou un vase d'honneur. Il n'y a pas de milieu. Donc, quand Paul a écrit, il dit « Si quelqu'un, » c'est verset 21, « Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et puis ce verset, c'est le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Après, nous ne sommes pas tous des prédicateurs, bien évidemment, mais nous avons tous un message qui doit être vu et lu dans nos vies. Et nos vies doivent parler. Elles doivent dire ce que nous sommes, ce qui se passe en nous. Nous sommes dans la vérité, dans la pureté, dans la droiture, dans l'honnêteté, dans tout ce que Dieu approuve. Nous désirons que Christ soit vu en nous, que ce soit sa sainteté qui soit vue, que ce soit lui qui soit en nous. C'est cela le plus important. Et puis, au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse. » Alors, bon, je ne veux pas rien dire, la jeunesse. Il y a les passions de la jeunesse, voilà. Mais il y a les passions humaines. Il y a des personnes qui sont plus impulsives que d'autres et des personnes qui se laissent aller plus facilement que d'autres à des passions. Mais une passion est toujours très limitée dans le temps. Quand quelqu'un a une passion, eh bien, il veut l'accomplir tout de suite. Il veut obtenir tout de suite ce qui est... Alors, nous sommes dans un monde, hein, on vous dit, il faut des coups de cœur. Vous avez un coup de cœur, voilà. Et régulièrement, j'ai sur mon téléphone un SMS qui me dit qu'il faut que je suive mes coups de cœur. Mais vous avez la possibilité, vous pouvez... Mais je ne veux pas. Parce que je ne veux pas m'endetter pour des choses, pour des coups de cœur. Parce que c'est des coups dans le porte-monnaie aussi. Hein. Et après, les coups de cœur, on les regrette parfois toute la vie. Hein. Donc, on fuit les passions de la jeunesse. Et Paul ne s'attarde pas sur ces choses-là. Il va rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pour moi, j'ai d'excellents souvenirs dans ma vie de moments que j'ai passés avec des frères et sœurs en Christ, où nous étions en paix, nous étions dans la communion fraternelle, nous étions de chers frères et de chères sœurs ensemble, sans ambiguïté. Nous étions la famille de Dieu. C'était une belle famille qui se réunissait pour célébrer le nom de Dieu et s'approcher de Dieu. Alors, c'est un bon repas. Parfois, c'est simplement la communion fraternelle. D'autres fois, c'est un moment de prière. Il y a des souvenirs dans la vie chrétienne où on a été avec ceux qui recherchent la justice, la foi, la charité, la pureté, la droiture, la sainteté. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Ceux qui veulent vivre pour Christ. Ceux qui ont soif de Christ, qui se réunissent saintement, purement, droitement. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de double mobile, il n'y a pas de... On ne se dit pas, est-ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est une autre? Non, c'est Christ, et on marche avec Christ, et on veut vivre pour Christ, on veut vivre dans sa communion, et c'est ça le plus important. Tout le reste, vous savez, il y a... Le monde est rempli d'hypocrisie et de paroles non dites, mal dites, sous-entendues, équivoques et tout cela. Mais entre nous, ces choses-là ne doivent pas exister. Si on dit oui, c'est oui. Et ça ne doit pas être compris non. Hein. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit « Oui, cette jeune fille, quand elle parle, quand elle dit oui, ben, ça veut dire non. » Et quand elle dit non, ça veut sans doute vouloir dire oui. Mais ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas où ils en sont. Oui, c'est oui, non, c'est non. Nous sommes chrétiens, on ne cherche pas de compromis, on ne cherche pas de virage, de tournant et de choses qui sont cachées derrière des paroles. Si on dit une chose, elle est dite, elle est vraie. Il n'y a pas de sous-entendu. Il ne faut pas comprendre une chose. On ne prêche pas le faux pour savoir le vrai. On ne dit pas des choses qui sont sous-entendues et la personne doit décrypter et lire entre les lignes. Mais tout ça, ce n'est pas bon. On est chrétien. On cherche la justice, la foi, la charité, la droiture, la sainteté, la pureté, la communion fraternelle, la gloire de Dieu avec ceux qui invoquent le Seigneur Jésus d'un cœur pur. Vous savez, c'est tout un programme. Il faudrait parler sur chacun de ces mots. Il faudrait soulever toutes les questions et tout ce qu'il faut faire dans ces situations-là. Mais quand nous nous réunissons entre chrétiens, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile à cause de ce virus, on ne se retrouve pas très facilement. Mais il y a des moments, vous savez, quand on se retrouve entre chrétiens, c'est une petite part du ciel. Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous sommes déjà dans la présence de Christ. Parce que nous sommes entre frères et sœurs et il y a Christ au milieu de nous. Il y a une telle communion fraternelle, un tel amour chrétien, une telle puissance de communion et de vie chrétienne et de sainteté et de choses que Dieu approuve dans sa parole et qui nous viennent de l'Esprit de Dieu, qu'on dit « mais ça, c'était une partie du ciel ». Nous avons vécu un petit peu du ciel sur cette terre. Et cela doit être le cas quand nous nous retrouvons entre chrétiens. C'est le ciel. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes la famille de Dieu. C'est pour cela que les paroles ont beaucoup d'importance. Il faut faire très attention à toutes les paroles que l'on prononce. C'est ce que je dis, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin cet après-midi, c'est faites attention à votre vie chrétienne. Il y a des moments où on dit, bon, mais c'est fini tout ça, ça n'a pas de sens. Ce que je veux, c'est les choses vraies, les choses pures, les choses vraies. Je ne veux pas vivre dans un compromis ou vivre une vie double ou une vie qui paraît une chose et qui en est une autre. Et si vous vous rendez compte qu'il y a le oui et le non dans votre vie, alors humiliez-vous sous la main de Dieu et dites, Seigneur, je te demande pardon. Je suis quelqu'un qui est double. Je ne suis pas. J'ai un visage devant les frères et sœurs et dans le monde, j'en ai un autre. Je vis une vie de compromis, une vie qui n'est pas la vie que tu approuves, pas la vie qui a la lumière, pas la vie que j'aimerais. Il y a une partie de ma vie que je n'aimerais pas voir publiée devant tout le monde. On s'humilie et on dit Seigneur, prends ma vie, dirige toutes choses, sois le Seigneur de ma vie. Soit tout mon bien, celui que je recherche au-delà de toute chose. Ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur. C'est avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui invoque le Seigneur d'un cœur pur? Je pense que c'est une bonne question. On aimerait bien être réunis avec des personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais il ne faut pas faire tâche non plus. Parce que peut-être que vous êtes la personne qui mettait en danger la communion fraternelle parce que vous ne vous réunissez pas avec un cœur pur. Mais ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a toute l'hypocrisie, toute l'incrédulité, toutes les choses doubles, tout ça, mettez de côté. Là où nous allons, tout ça n'aura pas cours. Et non seulement ça n'a pas cours, mais c'est condamné. Et si nous l'avons pratiqué, nous aurons honte de l'avoir pratiqué et de ne pas avoir mis tout ça en règle pendant que nous étions encore sur cette terre. Et cela nous sera reproché. Dieu nous dira, tu étais double. Tu étais oui et tu étais non. Avec un, tu étais oui, avec un autre, tu étais non. Avec celui-là, tu disais une chose, avec quelqu'un d'autre, tu disais totalement autre chose. Le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, il a toujours dit la vérité. Il a dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il n'y avait aucun mensonge dans sa vie, aucune parole double. Il a toujours dit exactement ce qu'il devait dire, avec amour, avec tact. Parfois, il a dû reprendre sévèrement les pharisiens et leur dire carrément ce qu'ils étaient. Et là, il n'a pas employé de tact, il a dit la vérité. Et c'était l'homme devant son juge, devant son Dieu. Ça, c'était quand il les a repris, c'est Dieu qui jugeait le pharisien. Quand il a repris les Sadducéens, quand il a repris les Hérodiens et tous ces gens-là, eh bien, il les a repris comme Dieu. Pas comme. Il n'a pas usé de tact ou de. Il a dit les choses vraies, parce qu'il fallait qu'il les dise à ce moment-là. Et parfois, bien Dieu nous appelle, parfois, à dire des choses que, bon, ben, la personne dit, tu es dur. Oui, je suis dur. Mais je suis dur parce que je vous aime. Et ça, c'est quelque chose, vous savez. On aime au point que parfois, on est obligé de dire des choses que les personnes, en les entendant, trouvent que ce n'est pas très agréable à entendre. Mais après tout, on ne cherche pas à plaire aux gens. On ne cherche pas à les conduire en enfer. On veut les amener au salut. Je me rappelle de chrétiens hein, qui disaient quand on n'a pas annoncé l'évangile à un inconverti, on a fait un bout de chemin avec lui en enfer. On sait que cette personne va en enfer et on ne s'inquiète pas de son âme, de son éternité. Mais c'est vrai aussi pour les chrétiens, les frères et les sœurs. Si on s'entretient de toutes sortes de choses légères, superficielles, mais est-ce qu'on a édifié? Est-ce qu'on a amené quelqu'un plus loin? Est-ce que la personne sent l'amour de Christ, sent que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et se dit ce moment marque l'histoire de ma vie. Ça m'amène plus loin dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je connais mieux le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis senti beaucoup plus sanctifié après cette heure passée avec ce frère ou cette sœur, parce que vraiment j'ai senti l'amour de Christ et j'ai senti une édification chrétienne, un soutien. On doit être de ces personnes qui apportent Christ toujours avec elles, qui manifestent Jésus-Christ, des vases d'honneur, des vases qui glorifient Dieu. Des vases que Dieu a pu utiliser pour les choses élevées, les choses saintes, les choses pures, les choses vraies, les choses éternelles. Et ça, c'est le plus important.